France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Réconcilier ses citoyens et gérer la crise du Covid-19. Voici les deux premiers grands chantiers de Joe Biden. Le 46e président des États-Unis annonce la mise en place dès aujourd'hui d'une cellule de crise sur le SARS-CoV-2. Il veut un plan prêt à entrer en vigueur pour son investiture prévue en janvier prochain. Les États-Unis comptabilisent plus de 237 000 décès liés au nouveau coronavirus depuis le début de l'année. C'est le pays le plus touché en nombre de morts. Et après l'élection de Joe Biden ce week-end, plusieurs places boursières ont ouvert en hausse ce matin. C'est le cas de Hong Kong avec 1,7%. Tokyo également cette nuit à plus d'1%. Et puis les grands indices à New York étaient dans le vert hier soir. En France, les transferts de patients pour désengorger les hôpitaux vont se poursuivre. Le Grand Est a effectué vers l'Allemagne plusieurs de ces transferts déjà en fin de semaine dernière. Sachez aussi que la région Auvergne-Rhône-Alpes, la plus touchée actuellement par l'épidémie, prévoit 200 nouveaux transferts cette semaine. Le cap des 40 000 morts liés au virus a été dépassé ce week-end dans le pays. Il est trop tôt pour voir les effets du reconfinement et savoir s'il sera levé à Noël. Voilà ce qu'a dit hier le ministre de la Santé, Olivier Véran. Nous nous intéresserons à un hôpital de campagne en Occitanie à Toulouse dans le journal de 6h30. Dans une demi-heure aussi, retour sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2022. Le chef des Insoumis pose une condition, réunir 150 000 signatures, ce qui représente un quart des adhérents de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon explique vouloir obtenir une investiture populaire.
Alors que les élections présidentielles américaines vont sceller la stratégie à venir face au réchauffement climatique, Laurent Fabius a choisi de livrer sur France Culture son regard diplomatique, économique, politique et personnel sur la transition écologique depuis le rôle qu'il joua en 2015 lors de la conférence de Paris. De cause à effet, le magazine de l'environnement d'Aurélie Luneau, avec Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, et Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, ce mardi à 21h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli
Radio France Culture, la compagnie des œuvres, même si le prix Goncourt est reporté sine die pour cause de fermeture des librairies, redécouvrons Edmond et Jules de Goncourt, deux frères assez odieux. La méchanceté étant gratuite, ils la dépensèrent sans compter. Ces langues de vipère ont légué à la postérité deux cadeaux, leur journal, plein d'esprit et de médisance, et un fameux prix littéraire couché sur leur testament en 1892. La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Du lundi au jeudi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
À 6h03 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver Bruno David. Le serpent est à l'honneur dans le monde vivant.
Dans l'Égypte ancienne, le serpent est tout à la fois l'Uraeus qui protège le pharaon et le dieu Apophis qui représente le chaos et les forces du mal. 30 ans avant Jésus-Christ, toujours en Égypte, la légende veut que la reine Cléopâtre, désespérée par la défaite de son amant Marc-Antoine, se donne la mort en se faisant mordre par un cobra. Mais le même serpent est tout autant le symbole de la guérison et de la médecine. Que d'ambiguïté, pas simple de caractériser le serpent. D'ailleurs, interrogez quelques personnes pour savoir où elles classeraient les serpents. Vous verrez qu'une partie d'entre elles les range parmi les vers. Le fait que les serpents n'aient pas de pattes perturbe. Ce faisant, ils rampent, ce qui nous paraît comme un bien piètre mode de locomotion. Comble de la mauvaise réputation, la plupart sont venimeux. Nous atteignons les sommets du mépris et de l'hostilité. Hostilité qui amène d'autres idées tout aussi fausses. Les serpents seraient gluants, auraient une longue queue, ils hypnotiseraient leur proie par le seul pouvoir de leurs yeux. Pour qui a tenu un serpent dans ses mains, force est de constater que son regard inexpressif est sans danger, qu'il a la peau sèche et douce. Enfin, c'est son tronc qui est démesurément long. La queue est en réalité très courte, mais comme elle n'est pas marquée, on l'imagine très longue. Les serpents sont honnis par les humains sous toutes les latitudes. Il faut dire qu'ils sont nombreux. On en connaît plus de 3500 espèces qui rampent à terre, grimpent dans les arbres, nagent dans les rivières, en mer, dans les torrents de montagne, ondulent dans les déserts. Ils sont sous tous les climats, sauf les polaires, et jusqu'à 4900 mètres d'altitude. Évidemment, on se souvient que pour les chrétiens, le serpent est l'instigateur du mal. C'est lui qui incite Ève à croquer le fruit défendu. Ce qui permet à la Genèse biblique d'expliquer l'absence des pattes. Initialement, le serpent en avait, mais la malédiction divine les lui ôta. Il se retrouve puni à ramper à terre, ce qu'il fait très bien au demeurant. D'ailleurs, pour cette fois, la Genèse n'a pas tout à fait tort. En effet, malgré leur absence de pattes, les serpents sont bel et bien des tétrapodes, des animaux à quatre membres. Les fossiles témoignent que leurs membres n'ont pas toujours été absents. La perte de leurs pattes remonte à 120 millions d'années. Mais elle n'a pas été complète chez tous, et encore aujourd'hui, les boas et les pitons possèdent des rudiments de bassins et de fémurs. Mais le serpent est associé à bien d'autres choses. Prenons la guérison, par exemple. Le serpent peut envenimer, et selon certains, de toutes petites doses de son venin pourraient soigner. L'emblème des pharmaciens est d'ailleurs un serpent qui s'enroule et se redresse au-dessus d'une coupe. Il est associé à Esculape, médecin réputé ayant exercé à Athènes autour de 1200 avant Jésus-Christ. Esculape qui a donné son nom à une belle couleuvre, serpent inoffensif devenu symbole de la santé. Finalement, pas si antipathique le serpent.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le réveil culturel. On peut être le plus grand poète du monde et en même temps un salaud pervers. Charles Baudelaire, raconté par Jean Tellet, c'est dans Crénom Baudelaire, un livre qui sort chez des nouveaux éditeurs, Mialet Barreau. Bonjour Jean Tellet, ravi de vous retrouver.
Bonjour Théophile, bien content d'être là.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Raconter la vie de Charles Baudelaire. Depuis son enfance, de l'âge de 5 ans jusqu'à sa mort, à 46 ans, mais raconter Baudelaire comme si c'était une star du rock, star décadente du rock, hein, parce qu'on le découvre insupportable, dingue, cruel, carrément méchant, jamais content, pour reprendre la formule, mécontent de tout le monde, mais mécontent aussi de lui-même.
Mais oui, il disait ça, mécontent de tous et mécontent de moi. Il détestait absolument tout le monde, mais il se détestait lui-même. Et d'ailleurs, il a dit cette phrase extraordinaire, « Si j'avais un fils qui me ressemble, je le tuerais par horreur de moi-même. »
Alors, on va commencer par expliquer le titre de votre livre, Jean Tellet, « Crénom Baudelaire ». Crénom, c'est la contraction de « Sacré nom de Dieu ». C'est le cri, c'est le juron qui va lancer parce que il va faire une chute après, oui. En visitant une église en Belgique.
Le 15 mars 1866, il visitait l'église Saint-Loup à Namur avec son éditeur et un jeune peintre qui s'appelait Félicien Rops. Et puis en sortant de l'église, à passer le portail, il a loupé une marche et il est tombé sur le front, et là il a dit crénom comme si on renversait par exemple une tasse de café, qu'on ferait « Oh merde !» Il est tombé sur le front en disant crénom, et pendant plus d'un an, jusqu'à sa mort, il n'a pas dit un autre mot que crénom.
Oui, il a bloqué sur ce mot.
Voilà. Et quand même, quand on a été l'Everest de la poésie, quand on a tellement inventé d'images, d'associations de mots et tout ça, finir sur un mot aussi con, c'est quand même pas de bol.
Vous racontez l'histoire d'un homme ignoble, mais dans votre livre, Jean Tellet, vous intégrez sa poésie, comme s'il fallait nous démontrer à nous qu'on pouvait être et un homme infréquentable et un poète exceptionnel.
C'est exactement ça, j'avais envie que les gens suivent ces phrases, et puis de temps en temps, bam, coller un poème, et qu'ils disent « Ah, mais la vache, il écrivait ça !» Parce que c'est tellement contradictoire.
Donc l'idée, c'était de voir comment on pouvait passer à la détestation d'un homme, à l'admiration de ce sublime voyou. Parce que l'auteur des Fleurs du Mal se raconte à travers sa poésie aussi.
Oui, et puis à propos des Fleurs du Mal, il avait dit « Dans ce recueil, je veux mettre toute ma haine et tout mon dégoût de toute chose. Et quand son éditeur, qui s'appelait Poulet Malassi, c'est un vrai nom, hein, et que lui a toujours appelé Coco Malperché, lui disait « Mais ça ressemblera à quoi les fleurs du mal ?» Il avait répondu « Ce sera comme une explosion de gaz chez un vitrier. » Et c'est vraiment ce qui s'est passé, parce que aussitôt le livre sorti, il a été attaqué en justice pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs.
Oui, 13 poèmes sur une centaine.
Voilà, 13 sur 100, ce qui est pas mal. Et puis il a été attaqué aussi pour mise à néant des chères croyances du christianisme. Et ceci dit, il y était à l'effort de ce côté-là aussi, parce que dans un poème qui s'appelle « Le reniement de Saint-Pierre », si je me souviens bien, ça démarre à peu près comme ça. « Qu'est-ce que fait donc Dieu de ce flot d'anathèmes qui monte tous les jours vers ses chers séraphins ? Comme un tyran gorgé de viande et de vin, il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes. » Et la fin du poème, le dernier vers, c'est « Saint-Pierre a renié Jésus, 3 points de suspension, il a bien fait. » Donc, il y était allé, quoi.
Vous allez nous raconter comment vous avez écrit ce livre sur Baudelaire, comment vous avez fait, Jean Tellet, pour raconter sa vie à partir des correspondances, à partir des biographies déjà publiées, en allant faire sans doute des enquêtes dans une bibliothèque bien achalandée. Mais tout d'abord, comment vous avez découvert Baudelaire? Vous l'avez découvert au collège, au lycée, en dehors de l'école?
Adolescent, dans une école de dessin où j'étais quand j'avais 15 ans et avec mes copains, et on était tous fous dingues des fleurs du mal. Et puis j'avais lu beaucoup de choses sur Baudelaire, mais beaucoup d'intellectuels parlent de Baudelaire, la pensée de Baudelaire, tout ça, et je trouvais tout un peu rasoir. Et puis pendant longtemps je disais, en tout cas j'écrirai jamais sur Baudelaire parce qu'il est vraiment trop misogyne et trop désagréable. Et puis au bout d'un moment je me suis dit, je vais quand même relire des vraies biographies, et puis surtout des témoignages de tous ceux qui l'avaient connu, tout ce qu'il racontait. Et je me suis dit, mais c'est une vie extrêmement romanesque et qui a jamais été racontée de la façon dont je raconte, parce que tout le monde est très sage, genre Baudelaire, on n'y touche pas, on peut pas.
Mais tout le monde connaît ses phrases en même temps.
Oui, mais je pense pas toutes. Mais c'était, moi je dis que c'était le premier punk sur Terre, rien que dans son apparence. C'était un type archi dandy. Il disait, je voudrais vivre une vie de dandy comme si je devais passer une vie devant un miroir. Et il disait, pour faire oublier aux autres qu'en fait je suis constitué de muscles, de tissus, de d'écoulements liquides et de sécrétions physiologiques. Et il se teignait les cheveux en vert, par exemple. Et puis avec un boa en plume d'autruche fuchsia autour du cou. Et donc c'était vraiment le premier punk sur Terre. Et il faisait un autre truc qui était vraiment un truc de punk et dont il a parlé dans un de ses poèmes en prose. C'est qu'il a vécu pendant les travaux d'Haussmann, où on faisait donc tout Paris et tout. Et la nuit, il aimait beaucoup venir près des chantiers où il y avait toujours un tonneau de poudre qui allait servir le lendemain matin à détruire des façades d'immeubles et tout. Et là, la nuit, sous la clarté du réverbère, il s'allumait un cigare. Ouais. Pour voir, pour risquer sa peau, pour connaître le plaisir de l'anxiété, pour faire le joueur, pour rien, et puis il se barrait, retourner, réécrire les fleurs du mal. Et pour moi, Baudelaire, c'est ça. C'est un mec qui allume un cigare près d'un tonneau de poudre. Il y a une façon de risquer sa peau, d'aller au bout du bout. Voilà.
Et pour vous, les fleurs du mal? J'entendais, parce que c'est quand même vraiment autour de ce recueil de poésie que vous racontez la vie de Charles Baudelaire. S'il fallait citer un vers, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là tout de suite?
C'est « Le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle ». Parce que Baudelaire a renversé la table de la poésie française. Jamais personne avait écrit ça. « Le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle ». C'est tellement moderne et c'est une image tellement forte. Tout d'un coup, il a tout foutu en l'air. l'associé de son éditeur, qui était aussi le beau-frère de Poulet-Malassis, lui reprochait de ce qu'il écrivait. Il disait, mais pourquoi vous ne célébrez pas l'Antique comme vos confrères? Et Baudelaire, il répondait, et où les ont-ils connus, les Antiques, mes confrères? Est-ce qu'ils voient des gens dans les rues marcher avec des péplums sur le dos? À quoi la forme grecque répond-elle dans notre temps? N'avons-nous pas aujourd'hui d'autres passions, d'autres mœurs, d'autres vices à rimer? Une lettre de paysan sans orthographe est plus humaine que leur fausseté. Et c'est ça, il a tout renversé, et c'est pour ça que ça nous touche autant, quoi.
Les fleurs du mal, donc au centre de votre livre, Jean Tellet, pour raconter l'histoire de l'homme de Charles Baudelaire. Mais Charles Baudelaire, vous venez de le dire, il était dandy parce qu'il était aussi mondain, il était le témoin de Paris qui devenait une ville lumière, c'est le cas de le dire, hein, parce que c'était vraiment à cette période-là, mais il a fait autre chose, il a quand même traduit Edgar Poe, il a été un critique d'art, mais pour vous...
Mauvais critique d'art.
Voilà, pour vous, Baudelaire, c'est les fleurs du mal. Et que les fleurs du mal.
C'est l'auteur d'un livre.
Les paradis artificiels, par exemple, pour vous.
C'est pas très bien. Ouais. C'est pas très bien. Le mangeur d'opium, c'est pas très bien non plus. Non, c'est vraiment l'auteur d'un livre. Et un livre court, hein, sans poème. Et après, quand il y en a eu 6 qui ont été interdits, parce que sur les 13 qui ont été condamnés, il y en a 6 qui ont été interdits, mais interdits jusqu'en 1949. Rendez compte, pendant 92 ans, interdiction de lire 6 poèmes de Baudelaire. Quand même terrible, ça.
La pendule sonnant minuit, ironiquement nous engage à nous rappeler quel usage nous fîmes du jour qui s'enfuit. Aujourd'hui date fatidique, vendredi 13, nous avons, malgré tout ce que nous savons, mené le train d'un hérétique. Nous avons blasphémé Jésus, des dieux le plus incontestable, comme un parasite à la table de quelque monstrueux Crésus. Nous avons, pour plaire à la brute, digne vassal des démons, insulté ce que nous aimons et flatté ce qui nous rebute. Contristé, servi le bourreau, le faible qu'à tort on méprise, saluer l'énorme bêtise, la bêtise au front de taureau, baiser la stupide matière avec grande dévotion et de la putréfaction, béni le blafard de lumière. Enfin, nous avons pour noyer le vertige dans le délire, nous, prêtres orgueilleux de la lyre, dans la gloire et de déployer l'ivresse des choses funèbres, bu sans soif et mangé sans faim, vite soufflons la lampe afin de nous cacher dans les ténèbres.
L'examen de minuit.
Vous avez entendu ça, que la beauté de ce texte.
Qui ne figurait pas dans la version...
Dans la première version.
Dans la première version. Ouais, je crois que c'était en 1868 que ça a été rajouté.
Oui, donc c'est posthume, vu qu'il est mort en 67. Et c'est la version de... Bon, on s'en fout, mais le choix de 69.
Et c'est bien sûr la section spleen idéale. interprété par Jean-Louis Murat.
Qu'est-ce qui le fait bien ? Qu'est-ce qui le fait bien ? Je ne connaissais pas.
Jean Tellet, vous êtes là avec nous pour nous parler de votre dernier ouvrage, Crénom Baudelaire. À la fin du livre, je ne sais toujours pas si ce personnage vous fascine ou est-ce qu'il vous fait peur ?
Les deux, mais ce que j'ai ressenti moi en l'écrivant et ce que ont l'air de ressentir les gens qui le lisent, c'est qu'à force de frasques et tout, vraiment on dit il est insupportable, peu à peu il devient de plus en plus bouleversant et émouvant et tout. Et c'était un type tellement hypersensitif qu'à la fin de sa vie, quand il était tellement attaqué par la syphilis, par les drogues hashish, opium, éther et tout, qu'il était arrivé à un niveau de sensibilité mais folle, qui devait être invivable. Et il disait maintenant, un homme que je croise dans la rue, un homme qui marche derrière moi, un chien ou un enfant que je croise me donne envie de m'évanouir. Il n'était que sensibilité, mais poussé à un extrême. Ça a dû être invivable d'être Baudelaire.
On a l'impression que vous n'intervenez pas, Jean Tellet, vous racontez l'histoire de Charles Baudelaire, vous illustrez ça, bien sûr, avec sa poésie. Quand vous racontez ces frasques d'hommes, ce type qui est misogyne, a priori misogyne, Et vous racontez ce qu'il faisait subir aux femmes, et pas seulement aux prostituées, y compris à ses amantes. Cet homme-là pouvait trouver les femmes laides, rejetées par tout le monde, très désirables,
ouais,
qui leur a consacré des poèmes,
ouais,
et puis aussi aux femmes âgées.
Mais oui, mais exactement. Il aimait les femmes différentes des canons classiques. Et quand vous parlez des femmes âgées, mais oui, un de ses plus beaux poèmes, qui est un long poème, c'est Les Petites Vieilles, où il s'intéresse aux petites dames toutes vieillissantes qu'il appelle les Ève octogénaires. C'est d'une tendresse, ça. Mais autrement, il était d'une cruauté totale. Et par exemple, il y a un Alexandrin de lui, un Alexandrin qui est absolument parfait. Il y a deux hémistiches, la césure au milieu et tout. Mais l'Alexandrin, il dit de la nécessité de battre les femmes. Ce qui est complètement con. Il avait ce paradoxe.
Il voulait provoquer ?
Oui, oui, oui. Il voulait aller droit au pire, il disait. Toujours aller au pire. Et il disait aussi, j'idolâtre le mystère de la laideur. La soif de l'inconnu et le goût de l'horrible m'inspirent. Et il voulait aller fouiller dans la boue et tout, pour en disait je veux pétrir de la boue pour en extraire de l'or. C'est un orpailleur, Baudelaire. Il allait chercher ses attirances ailleurs, et par exemple il aimait les femmes laides ou très maigres. Il disait la maigreur me semble plus indécente, les femmes maigres sont plus nues que les autres. Quelle étrange phrase.
Et il aimait se faire détester.
Ah, puis à ça, il adorait ça. Et il disait, avec mon talent désagréable, je voudrais mettre l'humanité tout entière contre moi. Je vois là une jouissance qui me consolerait de tout. C'est très étrange, alors que tous les artistes ont plutôt, non, logiquement, envie d'être aimés. Lui, il voulait être détesté.
Y compris avec les imprimeurs. Vous racontez ça, Jean Tellet, dans Crénom Baudelaire. Il rendait fou les imprimeurs.
Ah,
en
oui,
leur disant, oui, non, mais non, ce caractère n'est pas très bon, il est pas assez bien penché, tout
oui,
ça.
Oui, à un moment, son éditeur, il dit, mais bon, alors là, vous avez entouré un F. Qu'est-ce qu'il a, ce F? Baudelaire, il répond, il est un peu trop penché. Et l'éditeur dit, c'est normal qu'il soit penché, c'est un F italique. Il dit, oui, mais il est un petit peu trop penché. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut le redresser un petit peu. Et les deux compositeurs à Alençon, dans l'imprime, là où le livre a été imprimé, devenaient dingues. Ils les insultaient en envoyant les corrections à faire.
Après Lyon, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, vous allez continuer à vivre, à nous faire revivre la vie des grands poètes.
Non, parce que là c'est le pompon. Là, j'ai décroché la queue du Mickey là, avec Baudelaire. Il y a pas pire, il y a pas plus grand. Sans Baudelaire, il y aurait jamais eu Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. Enfin, c'est il a tout ouvert. Non, je termine en beauté.
Crénom Baudelaire, grand succès en librairie Jean Tellet, et c'est le premier livre d'une nouvelle maison d'édition, les éditeurs Mialet Barreau. Merci beaucoup d'être passé.
Merci à vous.
Moi, mon âme est fêlée. Et lorsqu'en ses ennuis, elle veut de ses chants peupler leur froid des nuits, il arrive souvent que sa voix affaiblie semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie. Au bord d'un lac de sang, sous un grand tas de morts, et qui meurt sans bouger dans d'immenses efforts.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Et on retrouve Auriane Jeancourt du magazine Transfuge, toujours fidèle au réveil culturel. Et ce coup de cœur pour le dernier roman d'Hervé Le Tellier, L'Anomalie, édité chez Gallimard, est un coup de cœur partagé avec le magazine Transfuge. Et on retrouve Auriane Jeancourt, toujours avec plaisir. Bonjour Auriane.
Bonjour à vous deux. Écoutez, moi j'ai aimé L'Anomalie alors que normalement je n'aurais pas dû aimer ce livre. Je vous avoue que ce genre de roman avec des présupposés, un peu de science-fiction à la Matrix, ça n'est pas tout à fait la littérature qui me plaît le plus. Mais je l'ai beaucoup aimé parce que je trouve en vérité que c'est un roman sur la seconde chance, comme le dit d'ailleurs souvent Hervé Le Tellier, comment est-ce que les choses se jouent deux fois? Et ça, c'est finalement quelque chose d'extrêmement fin, c'est-à-dire comment est-ce que on rêve tous que la vie telle qu'on la vit soit une répétition pour la véritable vie telle qu'elle viendra. Et donc, cette idée du double et cette idée de la répétition qui est au cœur, cette idée en effet très dostoïevskienne du double et de la possible autre vie qui viendrait après, eh bien c'est une idée finalement assez romantique et très présente et puissante dans L'Anomalie.
Voilà, L'Anomalie, bien sûr, figure dans le dernier numéro de Transfuge, même si ce numéro est assez particulier parce que cette fois c'est un chorégraphe que vous mettez en couverture.
En effet, Jeancourt. Et j'en suis très
Mais
heureuse.
Pas n'importe lequel, il faut dire.
Pas n'importe lequel, Angelin Prel-Jocage, qui est, comme vous le savez sans doute, le plus connu des chorégraphes français. Moi, j'étais très heureuse d'aller le rencontrer à Clermont-Ferrand alors qu'il créait le Lac des Cygnes. C'est assez inouï pour un chorégraphe contemporain. On sait qu'il a fait Hélicoptère, qu'il a fait en adaptant Stockhausen, John Cage. Enfin, c'est vraiment un ultra contemporain. Il vient du minimalisme quand même. Angelin Prel-Jocage. Et là, tout d'un coup, il va vers le Lac des Cygnes, le grand monument de la danse classique. Et il y a des tutus blancs, il y a des tutus noirs, il y a un gentil cygne, il y a un méchant cygne. Il y a tout de cette chorégraphie de petits pas. Et pourtant, il la réinvente complètement. Et c'est de ça dont nous avons longuement parlé à Clermont-Ferrand alors qu'il le créait, eh bien c'est de cette manière finalement de se réapproprier un grand classique et de le réinventer, de le retravailler de l'intérieur. Et finalement, tous les gestes qu'ont les danseurs sont complètement neufs, sont complètement contemporains, sont très audacieux, avec la précision qui est le propre de Prel-Jocage, mais la structure elle-même est absolument classique. Et finalement, toutes les petites filles et les petits garçons du monde retrouveront le lac des cygnes tel qu'ils l'aiment, avec ces pauvres cygnes qui disparaissent dans le conte.
Ça ne doit pas être évident, en ces temps de pandémie, de présenter ce genre de spectacle, non, Auriane Jeancourt?
Non, ça a été extrêmement compliqué, il nous le raconte d'ailleurs, parce que, évidemment, dans le confinement, ils n'ont pas pu danser, et ça a été atroce. Il faut imaginer pour les danseurs ce que c'était le confinement, c'est-à-dire l'impossibilité de bouger. Et donc, ils ont dû, ces cinquantaines de danseurs qui sont sur scène, qui sont extraordinaires, eh bien, en un mois et demi, faire ce qu'ils auraient dû faire en trois mois. Et ils font preuve d'une énergie sur scène. On voit qu'il y a un bouillonnement qui est sans doute né de cette impossibilité de danser pendant trois mois.
Auriane Jeancourt du magazine Transfuge, merci d'être venue.
Merci à vous.
Et à bientôt.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Publish or perish, publier ou mourir. Les débats entourant la personnalité du professeur Didier Raoult sont devenus idéologiques. Ils ont atteint un paroxysme avec la rétractation d'un article dans la prestigieuse revue scientifique internationale The Lancet. Fraude, mandarina, dans la cuisine des labos de recherche, LSD, une série documentaire de Lydia Benitzrak,
du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. À la veille de la commémoration de l'armistice le 11 novembre, France Culture s'intéresse aux jeux de guerre. Jeux de go, jeux vidéo, batailles navales ou pistolets en plastique, ces jeux peuvent développer l'intelligence stratégique, mais canalisent-ils les instincts belliqueux ou les attisent-ils? Et pourquoi, à une époque violente, plaisent-ils toujours autant aux enfants et à bien des adultes? Être et savoir, le magazine de l'éducation de Louise Touret, ce lundi à 21h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. La France va-t-elle bientôt voir les premiers effets du confinement? Le pays a passé ce week-end la barre des 40 000 morts à cause du Covid-19. Les premières mesures prises ont permis d'avoir une forme de ralentissement de la progression de l'épidémie, c'est ce que disait hier le ministre de la Santé. Dans ce journal, nous irons à Toulouse où un hôpital de campagne doit être déployé aujourd'hui. Le Covid-19 et ses remparts, ce sera le premier chantier de Joe Biden à la Maison-Blanche. Le président élu des États-Unis veut aussi réintégrer la de Paris sur le climat. Dans cette édition, son architecte Laurence Toubiana nous en donnera les conditions. Et puis, décryptage de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2022. Le chef de file de la France Insoumise l'a confirmé hier soir. Un hôpital mobile sera donc installé cet après-midi en Occitanie par le SAMU du CHU de Toulouse. L'idée est de soulager l'établissement hospitalier qui accueille des patients atteints du Covid-19. Ils sont de plus en plus nombreux dans la région. Stéphane Iglesis a pu joindre celui qui est à l'initiative de cet équipement innovant.
Monter un hôpital de campagne en 20 minutes chrono, c'est ce que peut faire dès aujourd'hui le SAMU du CHU de Toulouse. Vincent Boone, directeur du SAMU 31, en a eu l'idée lors des attentats de Barcelone en 2017. Cet équipement mobile est d'ailleurs financé en grande partie par l'Union européenne pour se déployer en zone frontalière près des Pyrénées. Vincent Boone, directeur du SAMU 31.
Le camion se transforme. Vous avez vu les films Transformers là ? Non, ce qui est vraiment impressionnant, ce qui est photogénique, ce qu'il faut voir, c'est le déploiement de l'hôpital. En 20 minutes, c'est l'unité mobile polyvalente Europe-Occitanie. En fait, on l'appelle nous l'hôpital mobile ou le shelter. Au départ, c'est un module qui était fait pour la médecine de catastrophe, pour faire un hôpital de campagne en cas d'attentat. L'objectif initial, c'était l'autonomie et la rapidité de déploiement.
Et le papa de ce camion hôpital est encore très ému de son nouveau-né, Vincent Boone.
C'est un concentré de technologie absolue, il est entièrement équipé, autonome, il a tout le matériel avec lui, il peut... C'est comme une réanimation, mais dépliable. C'est pas une tente. C'est un module en dur. C'est un module issu d'une technologie militaire. Il peut résister à 2 mètres de neige sur le toit. Il est climatisé, il est anti-radiation.
Dès cet après-midi, les premiers patients Covid-19 seront accueillis dans cet hôpital mobile qui dispose de 18 places de réanimation.
C'était Stéphane Iglesis depuis Toulouse. Alors que le seuil des 40 000 morts liés au SARS-CoV-2 en France a été dépassé ce week-end, il y a une forme de ralentissement de la progression de l'épidémie d'après Olivier Véran. Mais le ministre de la Santé estime néanmoins qu'il est encore trop tôt pour voir les effets du reconfinement de ces 10 derniers jours et savoir surtout s'il sera levé à Noël. Lutter contre le Covid-19, c'est la première chose que fera Joe Biden ce lundi, quelques heures après les résultats de la présidentielle aux États-Unis qui ont été donnés samedi par de grands médias. Le président élu mettra en place donc aujourd'hui une cellule de crise sur le Covid-19. Ce groupe de travail réunira des scientifiques et des experts chargés d'élaborer un plan à mettre en œuvre dès la prise de fonction de Joe Biden en janvier prochain. Et dans les 100 premiers jours de son mandat, Joe Biden a également l'intention de faire revenir les États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Que peut-on attendre de cette promesse? Sarah Ders a sollicité Laurence Toubiana, l'architecte de l'accord de Paris, directrice générale de la Fondation européenne pour le climat. Joe Biden peut, selon elle, compter sur l'opinion aux États-Unis. Encore faut-il qu'il soit force de proposition.
Ce retour doit s'accompagner de propositions des États-Unis, de politiques. Il a annoncé donc vouloir se mettre en phase avec tous les pays qui veulent arriver à zéro émission nette en 2050. Joe Biden devra développer dans l'année 2021 pour arriver à temps d'une certaine façon à Glasgow en novembre 2021 ou un peu avant. Mais il y aura beaucoup d'autres choses par ailleurs que Joe Biden peut faire, non seulement sur le plan intérieur, domestique. Et Biden profite d'un contexte où l'évolution par exemple des énergies renouvelables a été très importante. En 2019, par exemple, les États-Unis ont produit plus d'énergie renouvelable que d'énergie à base de charbon, d'électricité à base de charbon, pardon. Donc le charbon est entré en crise sous Trump beaucoup plus que ce n'avait été le cas sous Obama. Il faut aussi se rappeler qu'il y a un fort mouvement des villes, des États, des entreprises, de la communauté financière américaine, des universités, etc., qui se sont engagés dans des actions sur le climat contre l'administration de Donald Trump. Donc il peut compter sur ce mouvement-là, sur ces choses qui sont en train de passer dans l'économie, pour accélérer le mouvement malgré les difficultés qu'il va rencontrer à cause peut-être d'une minorité au Sénat.
C'était Laurence Toubiana pour France Culture. La chef de l'opposition bélarusse, Svetlana Tikhanovskaya, en appelle à Joe Biden pour soutenir les opposants de son pays. Elle espère d'ailleurs rencontrer le nouveau président des États-Unis, alors qu'hier en Biélorussie, plus de 800 personnes ont été arrêtées. Elle manifestait encore contre la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko. C'était en août dernier. Jean-Luc Mélenchon se déclare candidat à la présidentielle de 2022 en France. C'était attendu et c'était hier soir sur TF1. Le chef des Insoumis pose malgré tout une condition, réunir 150 000 signatures de tous horizons pour une investiture populaire, dit-il. La France Insoumise a officiellement 600 000 adhérents aujourd'hui. Il y a donc peu de suspense sur cette candidature. Nous y reviendrons. Mais d'abord, Stéphane Robert, cette déclaration est assez précoce.
Jean-Luc Mélenchon a hésité avant d'officialiser cette candidature à cause de l'épidémie de Covid-19, mais il est semble-t-il arrivé à cette conclusion que si l'épidémie doit durer, il n'y a pas et il n'y aura pas de bon moment pour se déclarer. Il se lance donc, et encore une fois très tôt, dans la course. Pour la présidentielle de 2017, il avait annoncé sa candidature en février 2016, un peu plus d'un an auparavant. Cette fois, nous sommes à un an et demi de l'échéance. À 69 ans, Jean-Luc Mélenchon se prépare pour une troisième campagne consécutive. Avec l'espoir de renouveler la performance de 2017, il était arrivé quatrième, mais avec presque 20% des suffrages, il avait, comme François Fillon, frôlé la qualification pour le second tour. Quatre ans plus tard, cependant, son image dans l'opinion a terni. L'épisode des perquisitions au siège de la France Insoumise en octobre 2018 a laissé des traces. L'emportement avec lequel il avait clamé « La République, c'est moi » a renvoyé l'image d'un personnage mégalomane qui a du mal à maîtriser ses nerfs. Malgré ça, il estime encore une fois être le mieux placé à gauche, ce que semble d'ailleurs accréditer une enquête IFOP réalisée en octobre qui le place au-delà des 10% d'intention de vote. Pour tenter d'asseoir sa légitimité, il lance une procédure de parrainage auprès des Français afin de recueillir 150 000 signatures. C'est uniquement s'il les obtient, a-t-il dit hier soir, qu'il sera officiellement candidat. Ça paraît peu comparé aux 7 millions de voix du premier tour de la présidentielle en 2017. Et le seuil paraît d'autant moins difficile à atteindre qu'il n'a fixé aucun calendrier, aucune échéance pour obtenir ses soutiens.
Stéphane Robert, la Société Générale prévoit de supprimer entre 650 et 700 postes en France. Pas de départ contraint, promet la direction aux syndicats. Elle organise des comités sociaux et économiques toute cette semaine au sein du groupe pour évoquer ce plan. Cela s'inscrit dans le cadre de restructuration dans plusieurs services, c'est ce que précise la CFDT de la Société Générale. Partons enfin en Corée du Sud, où 14 livreurs sont morts depuis le début de la pandémie de Covid-19. Les mesures de distanciation physique ont entraîné en fait la hausse des livraisons et donc une hausse de leur charge de travail, mort d'épuisement. Le président sud-coréen Moon Jae-in demande au gouvernement de se pencher sur les conditions de travail des livreurs, mais l'on sait depuis longtemps que ces travailleurs, souvent indépendants, sont dans une situation extrêmement précaire, Nicolas Roca.
Ils sont nombreux chaque jour en scooter ou au volant d'un camion à affronter le trafic très dense de la capitale coréenne. Leur travail a été vital pour le pays dans la lutte contre l'épidémie car les livraisons ont explosé. Lu Hanyu a 27 ans, il livre des repas et comme la majorité de ses collègues, il est travailleur indépendant.
Je travaille de 11h du matin à 11h du soir, tous les jours. Quand les restrictions sanitaires étaient plus strictes, j'avais énormément de travail, mais maintenant, la situation s'est un peu améliorée.
Gilet jaune et crocs aux pieds, Hanyu repart déposer sa commande. Pour lui comme pour les autres, la course à la vitesse est la règle, car les revenus n'ont pas évolué. Ko Kyu-yan, 44 ans, responsable d'un syndicat de livreurs indépendants.
Je suis payé un peu plus de 2 euros par livraison et c'est le même prix depuis 10 ans. Normalement, je ne devrais en faire que 2 par heure, mais si je n'en fais pas 5, je ne gagne pas ma vie. Cela me pousse donc à aller plus vite. Le nombre d'incidents de la route a baissé en Corée, mais le nombre d'incidents de deux roues a augmenté.
Ko Kyu-yan s'estime heureux de livrer de la nourriture, payée entre 60 centimes à 1 euro par course. Les livreurs du commerce de biens sur Internet sont les plus précaires. Les récents décès de 14 d'entre eux ont créé une vague de sympathie. Le message « ce n'est pas grave d'être en retard » est apparu sur les réseaux sociaux coréens, comme sur les fenêtres de quelques immeubles.
Nicolas Roca depuis Séoul pour France Culture. C'est un temps automnal qui nous attend ce lundi en France métropolitaine avec des brouillards matinaux, de la grisaille et de rares éclaircies. Quelques pluies et orages arrivent par l'ouest. Ce matin, il fait 7 degrés à Strasbourg, 11 degrés à Lille et Paris, 13 à Bordeaux, 17 degrés à Marseille et sur la Corse. Vous écoutez toujours France Culture. Il est 6h40, c'est l'heure du journal des idées. Nous accueillons Jacques Munier. Bonjour Jacques.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
De nombreux observateurs estiment que Donald Trump est un symptôme et que sa défaite ne mettra pas fin à la politique qu'il a incarnée dans une partie de l'opinion, Jacques.
Oui, Clara, pour Christian Salmon, sur le site AOC, la présidence de Trump n'aura pas été un accident de l'histoire. Je cite, « Trump, c'est la banque centrale de toutes les colères, il les concentre, les accumule, les estampille. » L'auteur de « La tyrannie des bouffons » emploie la métaphore de la création monétaire qui reposerait en l'occurrence non pas sur le crédit mais sur le discrédit avec un mécanisme comparable. On fait marcher la planche à billets, un mensonge efface l'autre, un tweet gomme le suivant dans un interminable trade sur lequel aucun fact-checking n'a de prise. L'incrédulité est érigé en croyance absolue. Le cadre démocratique lui-même, les lois, ses normes, ses rituels, fait l'objet de cette spéculation à la baisse sur son discrédit. Le pari paradoxal de Trump aura consisté à asseoir la crédibilité de son discours sur le discrédit du système. Dans un autre article du site AOC, la politiste Wendy Brown souligne l'augmentation substantielle du nombre des électeurs du président sortant par rapport à 2016 et elle estime qu'elle ne peut être attribuée aux seuls effets du néolibéralisme. La professeure de philosophie politique à Berkeley relève notamment la stratégie du Parti républicain et ses médias affiliés pour compenser le désastre politique, étiqueter les démocrates comme socialistes et identifier Trump à la liberté. Liberté de résister au protocole anti-Covid, de baisser les impôts des riches, d'élargir le pouvoir et les droits des entreprises, de tenter de détruire ce qui demeure d'un État réglementaire et social. Cette version de la liberté imprégnait déjà toute la culture anti-gouvernementale et antidémocratique néolibérale. Tout ce que le Parti républicain avait à faire était de la consolider. Ran Alevi exprime quant à lui, dans le Figaro Vox, sa fascination devant le spectacle de l'asservissement du vieux parti à la personnalité et aux intérêts propres de Donald Trump. Pour la première fois de son histoire, écrit-il, il s'est dispensé de présenter un programme se bornant à reproduire verbatim celui de 2016. Il lui a fait avaler, parfois partager, son mépris de toute norme, sa brutalité partisane, ses fulminations conspirationnistes sur l'état profond, le rejet de la science, le déni des réalités. On gonfle le nombre des victimes du Covid parce que les médecins et les hôpitaux en retirent de l'argent. Le professeur au Centre de recherche politique Raymond Aron estime lui aussi que Trump est tout sauf un accident historique. Il a réussi ce que le Tea Party avait échoué à imprimer au Parti républicain adossé à des certitudes devenues obsolètes, le populisme. Je cite, la globalisation puis la crise financière et ses ravages ont révélé la nécessité de repenser le compromis historique entre ultralibéralisme économique et conservatisme culturel qui avait fait le succès de Ronald Reagan. Une recomposition du libéralisme et du conservatisme qui devait élargir sa base, non seulement aux populations non diplômées, mais aux minorités pour qui la famille, la religion, la tradition, la nation ont encore un sens. Un quart des non-blancs ont voté Trump mardi dernier. Des chercheurs de la chaire intelligence spatiale de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, sous la direction de Jacques Lévy, ont dressé le cartogramme du vote, sur lequel donc chaque comté a une surface proportionnelle à sa population et qui permet d'attribuer leur poids réel à tous les électeurs, donnant ainsi sa place au monde urbain, peu visible sur la carte euclidienne classique. Le résultat à retrouver dans le monde est saisissant. Deux mondes que tout sépare et qui se trouvent plus encore qu'en 2016 face à face. Même dans les États traditionnellement acquis aux républicains, les grandes villes donnent la majorité aux démocrates. Je cite, le phénomène est comparable à ce qu'on observe en Europe, mais avec encore plus de netteté. Aux États-Unis, depuis 2000, les différences de localisation entre grandes et petites villes et entre centres, banlieues, périurbains et campagnes, ce qui est appelé gradient d'urbanité, joue un rôle croissant dans la distribution des votes entre républicains et démocrates. Face à face, donc, une nappe territoriale républicaine peu dense mais continue, et le réseau démocrate, constitué d'une centaine de métropoles reliées par les fils multiples des intenses circulations d'humains, d'objets et d'idées. L'Amérique bleue contre l'électorat conservateur qui cherche à résister au tourbillon du monde. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques.
Voilà, on reste sur le sujet des élections américaines avec cette question dans les enjeux internationaux. Quel rôle a joué la gauche de la gauche dans l'élection de Joe Biden?
Oui, l'électorat de cette gauche sociale semble en tout cas s'être montré plus loyal, plus discipliné qu'en 2016, année où on lui avait imputé une partie de la défaite d'Hillary Clinton face à Donald Trump. Cette fois, les partisans de Bernie Sanders, mais aussi de la nouvelle génération de sociaux-démocrates, Alexandra Ocasio-Cortez en tête, lui ont apporté un soutien peut-être décisif. Alors il faut bien sûr regarder cela plus en détail et voir si cela augure d'une gauchisation, pardon pour le néologisme, de la politique de Joe Biden pour les 4 ans qui viennent. Bonjour Charlotte Recoquillon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse associée à l'Institut français de géopolitique et journaliste indépendante. Alors pendant les plus de 3 jours qu'a duré le décompte des voix, les commentateurs disaient comment en Floride, dans l'Ohio, les États remportés par Donald Trump, comment le soutien de Biden par le mouvement de Black Lives Matter ou les grandes voix de la gauche américaine avait porté préjudice à Joe Biden. Vous dites l'inverse, que Joe Biden leur doit beaucoup. Quels exemples, quels États vous le laisse penser?
Oui, effectivement, Joe Biden doit beaucoup à ce mouvement, et ça s'est illustré alors dans cette bataille en Géorgie, notamment, alors paradoxalement, avec le travail d'une ancienne candidate qui avait perdu ses élections l'année dernière, mais le travail de Stacey Abrams qui a conduit à s'inscrire sur les listes électorales des milliers et des milliers de gens.
Qui est-elle? C'est une militante pour la démocratie, pour la défense des minorités.
Militante de Black Lives Matter, voilà. Mais c'est vrai aussi de l'élection de Cori Bush à Saint-Louis dans le Missouri. Cori Bush, c'est une infirmière, mère célibataire, classe populaire, qui a été une des militantes sur le terrain à Ferguson en 2014. C'est vrai aussi à New York avec Jamal Bowman ou Rachida Tlaib à Détroit et Ilhan Omar dans le Minnesota. Enfin, on ne compte plus les exemples. Et c'est vrai que ce travail et tout l'organizing aussi et le militantisme, l'activisme des leaders de Black Lives Matter qui ont mené une campagne très très offensive qui s'appelle Vote and Organize et qui ont conduit les gens à s'inscrire sur les listes électorales, à aller voter, à y aller en groupe, à s'assurer que les gens avaient bien suivi le processus, les signatures, leurs enveloppes, etc. C'est aussi ce travail-là qui a conduit à des votes décisifs dans des comtés pour Joe Biden.
Pour certains cas que vous avez cités, est-ce qu'on peut dire, je pense à Ilhan Omar, cette femme d'origine somalienne voilée dont Donald Trump n'a cessé de rappeler les origines quand il faisait campagne dans le Minnesota en l'appelant par son nom de famille, en disant qu'elle n'aimait pas l'Amérique. Pendant le décompte, on disait que comme elle avait été élue dans le Minnesota, elle allait faire perdre Joe Biden. Est-ce qu'on peut dire que Biden a gagné aussi grâce à elle ou malgré elle, malgré certaines de ces figures que vous avez citées?
Il y a une bataille interne au Parti démocrate qui est extrêmement féroce en ce moment. Un des alliés de Joe Biden, par exemple, John Kasich, le gouverneur de l'Ohio, a rendu furieux une partie de cette gauche de la gauche en déclarant il y a quelques jours que le Parti démocrate devait pointer du doigt cette gauche de la gauche qui avait failli faire perdre le Parti démocrate. Donc on voit que à peine l'élection remportée, ça commence déjà à se se tirer dans les pattes. Effectivement, il y a deux versions qui s'affrontent. L'une qui dit que ces discours trop radicaux et cette question raciale ont pu effrayer une partie de l'électorat et des Américains. Et puis cette extrême gauche entre guillemets qui elle dit que au contraire ces questions raciales elles sont absolument centrales et que les éviter c'est courir à sa perte. Alexandria Ocasio-Cortez a par exemple répondu à une interview dans le New York Times hier et elle concluait en disant que c'était extrêmement dangereux pour le Parti démocrate de ne pas attribuer la victoire à cet électorat-là qui s'est mobilisé de façon extraordinaire et que ça risquait de créer une désillusion qui était extrêmement dangereuse si on ne leur attribuait pas le mérite de cette mobilisation.
Alexandria Ocasio-Cortez qui a aussi dit dans un tweet après l'élection quelque chose comme « Joe Biden a gagné et je pense à Ilhan Omar », donc cette jeune femme somalienne voilée et donc qui a remporté l'élection, à qui certains membres du Parti démocrate ont manifestement demandé de rester discrète. Donc ça commence bien, la cohabitation.
Oui.
C'est compliqué. Alors...
Oui, et puis d'ailleurs, Alexandria Ocasio-Cortez aussi, elle rappelait ça. Elle disait qu'elle avait proposé son aide pendant la campagne. Et notamment, elle parlait de la question de la mobilisation digitale et l'utilisation des réseaux sociaux, où elle disait qu'elle avait proposé d'aider à organiser ses collègues candidats dans tous les comtés en balance, et qu'ils avaient absolument tous refusé son aide, sauf 5, et que les 5 qu'elle avait aidés et qui étaient les plus radicaux, qui soutenaient Medicare for All, enfin donc Medicare pour tous et qui soutenait aussi le Green New Deal, tout cela, les 5 avaient été réélus ou avaient gardé leur siège ou avaient conquis le siège, tandis que ceux qui avaient refusé son aide avaient perdu leur siège. Donc effectivement, la bataille au sein du Parti démocrate est assez dure.
Et à propos des votes, notamment des votes électroniques, vous nous disiez, Charlotte Recoquillon, combien le mouvement Black Lives Matter, qui a pris une ampleur colossale après la mort cet été de George Floyd, donc dans la campagne, a aussi pris part dans les élections, principalement en encourageant les Américains à voter, même par correspondance. Comment s'y est-il pris? Est-ce qu'il a donné également des consignes de vote à certains endroits?
Oui, alors il y a d'une manière générale, le mouvement Black Lives Matter fait preuve d'une énorme pédagogie et d'un très gros travail de politisation et d'éducation civique. Sur cette campagne électorale, ils ont donc frappé aux portes, envoyé des publicités, organisé, etc., pour inscrire les gens sur les listes électorales, leur expliquer qu'il fallait pas qu'ils aillent voter tout seuls s'ils allaient voter en personne, mais qu'ils emmènent des voisins, des amis, de la famille avec eux. Ils ont vraiment littéralement tous fait des petites vidéos ou utiliser des influenceurs pour faire des vidéos qui expliquaient voilà mon plan pour aller voter, tel jour je vais aller poster cette enveloppe, tel jour je vais convaincre deux personnes d'aller voter, tel jour je vais vérifier que mon vote a été enregistré, etc. Et donc ils ont fait cet énorme travail de mobilisation et de conviction pour les citoyens pour aller voter.
Et est-ce qu'on peut d'ores et déjà mesurer, estimer si ce mouvement Black Lives Matter a influencé le vote des électeurs notamment noirs et notamment dans les États du Sud?
Oui, c'est absolument certain. Pour compléter ma réponse à votre question précédente, 26 millions de personnes étaient dans la rue au mois de juin suite à la mort de George Floyd, ce qui était un mouvement, le plus grand mouvement social des États-Unis, de l'histoire des États-Unis, et ils avaient effectivement donc à la fois convaincu les gens d'aller voter, mais aussi poussé certaines propositions locales, certains référendums locaux ou des candidats à d'autres sièges. Donc leur stratégie, elle est à la fois là électorale, il fallait battre Trump absolument, mais ils se battent sur plusieurs fronts. Donc oui, ils ont été absolument déterminants. Je le rappelais par exemple en Géorgie, mais aussi dans l'Arizona, dans le Nevada. Et puis il va falloir compter sur eux dans les mois et dans les années à venir, ça c'est certain.
Certains disent même que Joe Biden a été élu grâce au vote des Noirs. En revanche, les électeurs latino-américains, eux, ne se sont pas autant mobilisés pour Joe Biden qu'ils ne l'avaient fait en 2016 pour Hillary Clinton, en tout cas dans certains États. C'est le fait que Donald Trump l'ait toujours traité de socialiste, que ce mot revienne toujours dans la campagne, ça a fait peur à certains électeurs latino-américains, notamment Cuba, en Floride ou autre.
Oui, voilà, quand on parle des latinos, il faut bien avoir en tête que c'est un ensemble extrêmement hétérogène et que entre les cubains anticastristes de Floride et les mexicains du Texas, il y a des très grandes différences politiques. D'une manière générale, l'électorat latino, pour quand même utiliser cette grande catégorie, a toujours eu un vote plus conservateur et plus républicain que les Noirs, par exemple. De ce point de vue.
Ils sont aujourd'hui la première minorité du pays avec 60 millions de personnes, mais comme vous dites, très hétéroclite. Alors, que va faire Joe Biden maintenant de tout ça? Est-ce qu'il va devoir gauchiser sa politique, faire profil bas? Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un centriste, Joe Biden, et Kamala Harris aussi, d'ailleurs.
Oui. Alors il avait déjà dans son programme un peu gauchisé son programme. Il n'avait jamais fait une campagne aussi à gauche. Donc c'est dire si il partait de très au centre. Il va sans doute être conduit à intégrer des mesures, notamment sur la question de la sécurité sociale, sur le Green New Deal. Il faudra surveiller peut-être les nominations aussi dans son cabinet. Ce qui est relativement préoccupant, c'est qu'il ne semble pas annoncer des mesures très précises sur les questions raciales et sur les questions de démantèlement du racisme institutionnel. À part reconnaître que le racisme systémique existe, il n'a pas vraiment développé le plan qu'il compte mettre en place. Et plus inquiétant que ça, il a déjà dit qu'il ne désinvestirait pas, il ne baisserait pas les fonds attribués à la police et qu'au contraire, il fallait mieux former les policiers, développer les services sociaux, développer une police de proximité et donc investir plus d'argent. Ce qui est le contraire de ce que demandaient les 26 millions de personnes dans le mouvement Black Lives Matter au mois de juin. Donc de ce point de vue-là, et la question de la police et des violences policières est l'entrée dans le combat pour la justice raciale. Et donc de ce point de vue-là, c'est vraiment très déterminant et lourd de sens. Donc c'est relativement préoccupant.
On verra ce qu'en disent les sociodémocrates qui veillent et puis sur plein d'autres sujets, notamment où peut-être il devra faire des concessions, les sociodémocrates qui disent par exemple que sur l'accord de Paris, c'est très bien de vouloir le réintégrer, mais il faut surtout repartir sur de nouvelles bases beaucoup plus contraignantes. Merci beaucoup Charlotte Recoquillon d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante et chercheuse associée à l'Institut français de géopolitique.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Cette semaine, dans Culture Monde, nous nous penchons sur le défi que pose la crise sanitaire à nos régimes, à nos responsables politiques.
Culture Monde, Florian Delorme.
Tous sont mis à l'épreuve par le Covid. D'Angela Merkel, qui semble plutôt bien s'en sortir en Europe, même si tout n'est pas si simple, à Xi Jinping, plus que jamais renforcé en Chine, en passant par Donald Trump, dont la reconduction a été ébranlée par sa gestion du virus, ou encore Jacinda Ardern, en Nouvelle-Zélande, dont tout le monde salue l'efficacité. Gouverner au temps du Covid, on se retrouve cette semaine sur France Culture.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture et sur franceculture.fr.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
France Culture, partenaire de la mini-série De Gaulle, l'éclat du secret. La série brosse le portrait d'un homme d'État à l'épreuve du pouvoir, d'un stratège et d'un fin politique, et lève le voile sur le secret d'une personnalité jusqu'ici pudiquement cachée derrière la statue du héros. De Gaulle, l'éclat du secret, ce soir à 21h05 sur France 2 et déjà vu sur France TV, à partenariat France Culture.
Vous écoutez France Culture, 6h57. Bonjour Guillaume Herbert.
Mais bonjour Julie Gaco, bonjour à toutes et à tous.
Votre humeur du jour, Guillaume, c'est l'empathie stupide.
Mais oui, vous vous souvenez de l'expression chère à Bill Clinton, it's the economy stupid, c'est l'économie stupide, autrement dit, c'est sur l'économie que nous l'emporterons. Tout ça, ça remonte à 1992 dans le match Clinton-Bush. Eh bien, de la même façon, il serait peut-être possible de dire que c'est l'empathie stupide, l'aptitude à compatir, qui a creusé, qui a fait la différence entre Trump et Biden. Alors bien sûr, je ne vais pas épuiser les 1000 différences et aussi les centaines de ressemblances qui séparent et rapprochent Trump et Biden. Mais enfin, voilà ce que Biden a fait dimanche matin, juste après l'annonce de son élection. Il est allé à la messe, puis il est allé se recueillir sur la tombe de ses morts, sa femme, son fils, sa fille. Il y a des présidents, vous savez, qui aiment les cimetières, Julie, Clémenceau, Mitterrand, et puis il y a des présidents qui savent compatir et Biden. Et probablement de cela, par calcul, par vérité d'âme, impossible de le dire, et puis peu importe, mais Biden connaît la souffrance des hommes, elle lui est naturelle, il n'ignore rien du Stabat Mater Dolorosa, et ça se voit, ça se sent. A contrario, s'il y a une aptitude que l'on ne prête pas, mais alors pas du tout, à Donald Trump, c'est sa capacité à compatir. On peut imaginer parler de l'un de ses chagrins, je ne sais pas, avec Jacques Chirac, Barack Obama, avec Trump, jamais, évidemment. L'importance de l'aptitude à compatir d'un candidat à une élection a été officiellement validée par les travaux d'un chercheur, Donald Kinder. Il a montré que c'est la capacité d'empathie prêtée à Ronald Reagan qui a joué un rôle absolument déterminant. Et c'est cela, plus que sa capacité à mener une politique étrangère ou sa crédibilité économique qui a compté. Reagan a été élu, il l'a été par des électeurs qui justifiaient leur choix parce qu'ils prêtaient à cet homme des qualités requises pour les comprendre, et par ordre, ce qui a compté pour eux, c'était le leadership, la compassion, et puis seulement l'intégrité et enfin l'intelligence. Voilà peut-être pourquoi Biden, 40 ans après Reagan, l'a emporté sur Donald Trump.